En ce 14 décembre, c'est un grand jour pour ce qui est des fêtes des saints. C'est la fête de Saint Jean de la Croix, un carme, docteur de l'Église qui est mort en 1591, et sans doute d'après, je pense bien, le jugement unanime des hagiographes, des spécialistes des huit saints ou de l'histoire de l'Église ou les observateurs du christianisme, sans doute le saint le plus intéressant pour ce qui est de la recherche de Dieu et de l'emprise que Dieu peut avoir sur une âme. Cette emprise qui est exigeante mais douce, qui est la source du vrai et plus grand bonheur, qui est celui d'ailleurs qui nous attend dans l'au-delà, c'est évident, le ciel c'est ça. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui du décès d'une femme que je considère comme une sainte, et je ne suis pas le seul, j'imagine bien, c'est la baronne Catherine de Huec d'Oherty, qui est morte à 5h30 du matin le 14 décembre 1985, il y a exactement 10 ans. C'est dire qu'à Cumbermere, en Ontario, à Madonna House, où l'on publie un très intéressant petit journal spirituel qui s'appelle Restoration, que je suis abonné d'ailleurs et que j'aime beaucoup, eh bien, on fête aujourd'hui ce grand jour de l'entrée au ciel d'une sainte canadienne d'origine russe qui savait unir dans son cœur et l'Église catholique latine et la grande Église orthodoxe russe, qui a su aussi mener un apostolat auprès des plus pauvres, tout en étant une contemplative de très grande qualité. Et à Cumbermere, en Ontario, on peut se rendre là et faire des retraites et se joindre à cette communauté de langue anglaise, où il y a des gens de langue française, d'ailleurs, on peut se retrouver en français, et où on peut vivre une vie spirituelle intense. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je veux donc vous parler de Saint Jean de la Croix. Vous savez que Saint Jean de la Croix, on peut se procurer ses œuvres complètes, mais je ne les recommande pas à tout le monde. C'est pas facile, hein? Ça existe dans un seul volume. Moi, j'ai acheté ça en 1950. C'est les œuvres spirituelles du bienheureux Père Jean de la Croix, paru chez Desclée de Brouwer, et c'est plus de 1500 pages. On les retrouve en volume séparé aussi chez aux éditions du Cerf depuis le début des années 80. Un petit livre intéressant qui était paru en 1975 chez Desclée de Brouwer aussi, c'est « Les poèmes mystiques de Jean de la Croix ». C'est seulement 133 pages, et ça peut intéresser ceux qui s'intéressent d'abord à la littérature et à la poésie. Car Jean de la Croix, ce grand mystique, ce grand saint de l'Église, est aussi le plus grand poète espagnol. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens affirment. Mais on peut lire aussi, j'avais acheté ça aussi vers 1950, c'est aux éditions du Seuil. Ça doit exister encore, c'est dans la collection La Vigne du Carmel. C'est en 230 pages environ, l'abrégé de la doctrine de Saint Jean de la Croix. Et c'est peut-être un ouvrage, si ça existe toujours, ou des ouvrages similaires, c'est ce qui peut être le plus intéressant, car on a là des extraits, des morceaux choisis, si on peut dire. Il reste qu'il y a aussi de Bruno de Jésus-Marie, le grand ce carme éminent, qui a publié un grand Saint Jean de la Croix avec une préface de Jacques Maritain. Oh, j'avais acheté ça dans les années 40, ça n'existe sans doute plus, mais qui sait, dans les livres d'occasion, c'est un livre de 482 pages, publié chez Plon en 1929, et c'est extrêmement intéressant. Mais il y en a un plus récent, c'est de Alain Cugnot, paru vers 1980 chez Fayard, Saint Jean de la Croix. C'est peut-être l'ouvrage le plus susceptible d'intéresser tout le monde, les croyants comme les incroyants, car des incroyants s'intéressent à Saint Jean de la Croix, hein? Non seulement à cause de la qualité de ses textes et de l'intelligence de sa perception du monde spirituel, mais aussi pour ce qui est de ceux qui sont capables de le lire en espagnol, de la qualité de la langue. Alors, ceux qui veulent connaître Saint Jean de la Croix, qu'ils soient croyants ou incroyants, peuvent lire de Alain Cugnot, C-U-G-N-O, Saint Jean de la Croix, paru chez Fayard. Ceux qui sont plus mystiques et plus avertis pourront lire de Guido Stinissen, S-T-I-N-I-2-S-E-N, Découvre-moi ta présence. Ce sont des rencontres, oui, des rencontres avec Saint Jean de la Croix, avec une préface du fameux père Conrad de Mester. Car, n'est-ce pas? C'est paru vers 1990, 363 pages. Et dans un vieil ouvrage des années 40, là, les études carmélitaines, ma joie terrestre, où donc es-tu, hein? Ceux qui ont ça dans leur bibliothèque peuvent y retourner avec joie. Je l'avais reçu en cadeau de ma marraine en 1954, et c'est un beau cadeau, un beau souvenir de la sœur de ma mère. Et enfin, je le signale, parce que c'est assez étonnant, c'est une religieuse, une sœur de la Charité de Saint-Louis, une Québécoise, donc Fernande Pépin, qui a publié chez Bellarmé un ouvrage sensationnel, étrange, immense, que seuls les spécialistes peuvent lire, « Noces de feu ». Il s'agit du symbolisme nuptial, du cantique spirituel de Saint-Jean de la Croix, à la lumière du cantique des cantiques. Ouvrage immense, 433 pages, paru donc chez Bellarmé, les éditions à Montréal, n'est-ce pas, que possédaient les jésuites, 1972. Bien, cette sœur, qui est diplômée d'études supérieures, est doctoresse lettres, et diplômée de l'université de Salamanque en Espagne, etc., etc., elle a de nombreux diplômes, sœur Fernande Pépin. Je vous fais grâce d'autres ouvrages sur Saint-Jean de la Croix que j'ai, comme celui que m'avait donné Madame Yvonne Pelledouelle à Paris, son Saint-Jean de la Croix et la nuit mystique, que je recommande à tout le monde dans la collection Maître spirituel, n'est-ce pas, la grande collection Maître spirituel, qui est publiée, n'est-ce pas, par les éditions du Seuil, où il y aurait aussi La nuit et la flamme, Les chemins du Carmel d'Anne-Elisabeth Steinman aux éditions Saint-Paul, etc., etc. Mais commençons donc par la vie de ce Saint-Jean de la Croix. Je vous ai tout donné ça, c'est pour vous donner le sentiment que c'est important, Saint-Jean de la Croix, hein, que c'est immense, que ça vaut la peine d'être connu. Il est la gloire de l'Espagne mystique du XVIe siècle. Saint-Jean de la Croix vit le jour en 1542, sur le plateau de la vieille Castille, hein, donc en plein cœur de l'Espagne, la grande Espagne. Entre Salamanque, vous voyez cette université où a étudié cette sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure, sœur québécoise, hein, et Avila, d'où est originaire évidemment Thérèse d'Avila. Il est né à Fontiveros, c'est son père Gonzalo de Yepes. Comment ça s'écrit Yepes? Ceux qui l'ignorent, c'est Y-E-P-E-S. Yepes. C'était un Tolédan, donc il venait de Tolède. Il était d'une certaine noblesse, comme l'indique son nom d'ailleurs. Mais selon les dires de l'époque, là, puis on parlait même de ça quand dans mon jeune temps, il s'était mésallié. Il a fait un mariage qui n'était pas tout à fait du niveau de ses origines, et sa famille un peu boudeuse l'a laissé dans une certaine pauvreté. Comme quoi, le sens de l'Évangile n'existe pas souvent dans toutes ces familles d'une certaine noblesse ou d'un certain snobisme. Donc, c'était une mésalliance seulement aux yeux du monde, car sa jeune femme, qui s'appelait Catherine Alvarez, était une femme, disons, vertueuse et belle. Donc, elle avait toutes les qualités. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Seulement, elle était pauvre, sans ancêtre. Alors, il a fallu travailler dur, puisque son mari était plutôt abandonné par la fortune de sa famille. Gonzalo de Yepes allait donc vendre à la grande foire, au grand marché de Medina del Campo, la soie qu'il préparait à domicile. Il préparait des bonnets de soie, je crois. Et trois enfants sont nés. Bon, François, Louis, qu'on peut éliminer puisqu'il est mort jeune. Puis, après 13 ans de mariage, Jean de Yepes, c'est Jean de la Croix. Après 13 ans de mariage, c'est étonnant, hein? Gonzalo de Yepes, le père, étant malade, avant la naissance du petit dernier, il a souffert quelque temps, puis il est mort. Lorsque Jean n'avait qu'environ 2 ans, imaginez alors, le pauvre Jean restait seul avec son frère aîné François, qui avait plus de 10 ans que lui, et sa mère, pauvre. La famille pauvre donc émigre à Arevalo, un peu au nord-est de Fontiveros, d'où ils étaient. Et Catherine, donc, la maman et son aîné François, ont travaillé pour un tisserand, et le petit Jean lui tâte de plusieurs métiers. Alors, notre futur Jean de la Croix est apprenti charpentier. Il est tailleur, il est sculpteur sur bois, des peintres. Il fait, comme bien des jeunes aujourd'hui, toutes sortes de métiers pour essayer de s'en sortir. Puis vers 1554, donc à 12 ans, on vient à Medina del Campo. C'est dans le León. C'est une grande ville où Jean, futur Jean de la Croix, peut voir ce qu'est la vie avec toutes ses turpitudes, toutes les difficultés, les misères, les débauches. Et Jean de Yepes, donc, apprend à lire, à écrire. Au collège des enfants de la doctrine, où on loge les enfants comme ça, qui sont pauvres, c'est un collège fondé, justement, comme l'Église en a tellement fondé, des maisons d'enseignement pour aider les plus pauvres. Les sœurs qui s'occupent de ça, les sœurs de la doctrine chrétienne, lui confient la fonction de quêteur. Et voilà que ce petit bonhomme-là devient homme de confiance, et bientôt il prend du service à l'hôpital de Las Bubas. Qu'est-ce que ça veut dire, Las Bubas? C'est curieux, ça veut dire des bubons aussi, des pustules. C'est pas très ragoûtant comme nom pour un hôpital. Alors, notre infirmier, qui est adolescent, trouve le temps quand même d'étudier grammaire et philosophie chez les jésuites. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps à lui, hein. Le matin, le soir, un petit peu, même la nuit, on appelle l'infirmier, mais on le trouve très souvent, il y a une petite lampe d'allumée, puis il travaille au milieu des objets qui l'entourent comme infirmier, hein. Il étudie. Mais est-ce qu'il va accepter, à cause de ses études, une situation honorable, confortable? Est-ce que il va devenir chapelain quelque part, en étant prêtre, hein, puis en ayant de bons bénéfices, et en devenant peut-être chanoine, etc.? Mais pas du tout, ça ne l'intéresse absolument pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la vie religieuse la plus stricte. Bon, on va dire que c'est un intégriste. Peut-être un petit peu sur les bords. Hein? En 1563, il reçoit l'habit brun et la chape blanche des frères de la Vierge, c'est-à-dire des Carmes. On en a maintenant des Carmes à Montréal. Hein? Près du métro Henri Bourassa, je vous en ai déjà parlé. Un couvent de Carmes maintenant à Montréal depuis quelques années à peine. Ils sont venus de Toulouse, il y a là des Québécois qui étaient entrés à Toulouse là-bas, y compris, je pense, un médecin. Alors, est-ce que c'est le bonheur pour lui d'être chez les Carmes? Il trouve que la vie qu'on y mène est un petit peu en retard sur son idéal, alors il songe à se faire chartreux. Chartreux, je vous ai déjà parlé de ça quand je vous ai parlé de Saint-Bruno, toute une émission consacrée à Saint-Bruno, si je me souviens bien, le fondateur des chartreux. Vous savez que vous pouvez toujours vous procurer ces cassettes dont je vous parle comme ça, elles existent et vous pouvez vous les procurer à 374-3785. Quelqu'un était surpris que toutes ces cassettes existent, mais oui, toutes les cassettes existent depuis le début de cette série. 374-3785. Et alors, il tient à étudier sérieusement notre Jean de Yepes. Et là, en 1564, donc, à 22 ans, jusqu'en 1566... Il est ce qu'on peut appeler philosophe au collège Carme de Salamanque. La grande université de Salamanque où je suis allé. Oh, c'est beau à visiter, c'est magnifique Salamanque. Hein? Et la grande université comptait plus de 5000 étudiants, imaginez, en 1546, et plus de 6000 en 1584, des grandes, grandes universités. Alors pour mortifier ses tentations, sa chair, Jean porte une chemise et un caleçon en tissu très grossier. Alors, ça frotte, ça, c'est dur à porter. Ça doit pas être facile. Et quand on porte un chandail qui pique, on n'aime pas tellement ça. Et alors, en 1567-68, il est théologien et prêtre. Et en 67, donc, comme je vous ai dit, c'est là qu'il a rencontré, on peut dire l'amour de sa vie, mais un amour tout spirituel, c'est Mère Thérèse d'Avila. Cette grande mystique que l'on considère aussi comme peut-être la plus grande mystique de l'histoire de l'Église. Alors, les deux plus grands mystiques de l'histoire se rencontrent. Qu'est-ce qu'elle fait, Thérèse d'Avila? Elle travaille a ramené les carmélites à l'idée primitive du Carmel. Est-elle intégriste, elle aussi? Posons-nous les questions et voyons. Alors, elle a 52 ans, mais lui n'en a que 25. Elle le conquiert. Enfin, il la trouve fantastique. Il veut avoir vite ce nouveau régime chez les Carmes. Il veut restaurer les austérités anciennes. Puis il obtient de vivre selon l'ancienne règle des Carmes qui avait été rédigée vers 1209 et qui était tombée en désuétude depuis 1431. Alors, en novembre 1568, il a été ordonné prêtre à ce moment-là. Il a fait ses vœux. Il s'appelle Jean de la Croix. Mais il débute avec deux compagnons à Duruelo, en Vieille-Castille, dans un logis minable. Et un soir, brisé de fatigue, le père Jean de la Croix demande la permission d'anticiper sa collation. Et dès qu'il a mangé, il a des remords. Parce qu'il a cédé à un appétit, petite gourmandise, quoi. Et à l'heure de la collation, là, qu'est-ce qu'il fait? Pauvre malheureux, il est jeune, il exagère, il se flagelle jusqu'au sang dans le petit réfectoire et tombe défaillant. Quelle exagération! Comme quoi, Dieu choisit parfois des exaltés, presque des malades mentaux, pour finalement leur redonner dans leur équilibre un idéal profond, sensé et intelligent. Alors, ce jeune exalté qui est Jean de la Croix sait quand même interpréter les avis de notre Seigneur sur le détachement de la famille. Il a auprès de lui, pour la cuisine et la lingerie, sa mère, son frère et sa belle-sœur. Jésus dit qu'il faut tout quitter. Lui dit oui, d'accord, mais il faut les aider aussi. Alors donc, il n'est pas si extrémiste que ça. Et le nouvel ermite, qui est Saint Jean de la Croix, ne se refuse pas à des petites courses apostoliques pour faire du bien. Mais s'il va dans un village, il ne va pas manger au presbytère parce qu'il craint qu'on y mange trop bien. Il aime d'ailleurs la solitude. Et en 1570, tout jeune prêtre encore, il est maître des novices. En Nouvelle-Castille, l'année suivante, il passe à Alcala, non loin de là. Pendant 16 mois, il dirige le collège des étudiants carmes. L'année suivante encore, 1572 jusqu'à 1577, il confesse et dirige des religieuses du Carmel de Thérèse d'Avila, le Carmel de l'Incarnation, c'est comme ça que ça s'appelle, le Carmel de l'Incarnation, à Avila. Hein. Alors la mère Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse, l'a présenté à ses filles, à ses carmélites, comme un père qui est un saint, ce sont ses paroles. Elle les a pas prononcées devant lui, j'espère. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont appris à se connaître davantage. Et là, le père Jean de la Croix, puis la mère Thérèse d'Avila, s'estiment de plus en plus. Mais il y a parfois un inconvénient. Il est écrit dans des textes de cette époque, « Pas moyen de parler de Dieu avec mon père Jean de la Croix. » Il entre aussitôt en extase et y fait entrer les autres. C'est Thérèse d'Avila qui a écrit ça. Il y a 57 ans, lui, il en avait 30 ans. Il en avait 30, elle s'est accusée de le traiter avec un respect insuffisant. Et lui, il lui a dit, le sourire aux lèvres, il faut vous corriger de cela, ma fille. Alors, quand on regarde leur écriture, j'ai un ouvrage comme ça sur l'écriture des saints, c'est très, très intéressant. On peut faire une comparaison de leur écriture. L'écriture de Sainte Thérèse est tellement virile, elle est toute en coups de sabre, des coups magnifiques. Hein? Tandis que celle de Saint Jean de la Croix est plutôt tranquille. C'est une écriture simple et unie, qui est étrangère à tout conflit. Alors le père Jean de la Croix était un confesseur doux et ferme. Plus ils sont saints, les confesseurs, déclare-t-il un jour, plus ils sont doux et moins ils se scandalisent. Je répète ça, c'est pas bête, pour tous ceux qui m'écoutent, là, qui sont confesseurs. Plus ils sont saints, les confesseurs, plus ils sont doux et moins ils se scandalisent. C'est Saint Jean de la Croix qui dit ça. Parfois, sa justice avait des contre-coups d'ailleurs. Mais je préfère passer là-dessus. Et en 1575, un chapitre général des Carmes, à Plaisance, en Italie, appréciait sévèrement l'action de ceux qu'on appelait des primitifs, ceux qui voulaient tourner à la règle primitive en Castille. Alors, ces nouveaux moines Carmes, qui étaient toujours à l'intérieur du grand ordre des Carmes, mais on les trouvait désobéissants, rebelles. Puis dans la nuit du 3 au 4 décembre 1577, donc à peu près 10 ans après son ordination sacerdotale, le père Jean de la Croix, avec un compagnon, ont été enlevés de leur logis et conduits à Tolède, au principal monastère des Carmes de Castille. Et imaginez, ils y ont été là séquestrés pendant 9 mois, dans des conditions épouvantables, et presque continuellement enfermés dans un réduit, sombre et sans air. Ça a été une expérimentation de ce qu'on pourrait appeler la nuit obscure. La nuit obscure, n'est-ce pas, c'est un langage qu'on utilise dans le monde spirituel, et lui-même, Jean de la Croix, a écrit là-dessus, la nuit obscure, qui est bouleversant sur la difficulté de chercher Dieu à travers des ténèbres intérieures. Quand on pense que dans cette espèce de prison sont nés les poèmes mystiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont si profonds et si beaux, hein, et seule la souffrance et l'amour à l'état pur pouvaient donner des merveilles comme ces poèmes-là. Alors la peine physique se doublait d'une grande peine morale, hein, et les moines qu'on appelait les chaussés, les carmes chaussés, qui voulaient pas changer, là, n'épargnaient rien pour forcer leurs prisonniers à abandonner cette réforme qui était lancée, disait-il, en parlant de Thérèse d'Avila, par une femme inquiète et vagabonde. Donc Jean de la Croix est enfermé afin de qu'il cesse d'essayer de réformer les carmes, une grande partie des carmes n'appréciant pas l'idée. Et on peut dire que s'il a pu écrire de très beaux poèmes pendant qu'il était enfermé, on peut dire qu'il avait quand même beaucoup de souffrance physique et une grande peine morale. Car les carmes chaussés, comme on les appelait, et les autres, ceux de Jean de la Croix, on les appelle les carmes déchaussés, portaient des sandales. Il sentait beaucoup de chagrin dans les attaques qu'on faisait contre Thérèse d'Avila, dont il voulait suivre les idées. Et Jean de la Croix se défiait de tout, même des pauvres sardines qu'on lui donnait à manger. Il avait peur d'être empoisonné, imaginez. En somme, il éprouvait quelque chose qui me rappelle beaucoup notre Seigneur à Gethsémani. Hein. Sainte Thérèse disait, « Je ne saurais m'expliquer cette infortune. » Mais on ne trouve jamais personne qui se souvienne de ce saint, car il lui est arrivé bien des aventures à ce pauvre Jean de la Croix. Alors elle a essayé d'intercéder auprès de Philippe II. Et on peut dire que c'est grâce à Philippe II qu'il a été délivré quelque temps après le 15 août 1578. Toutefois, on sait que il est parti avec l'aide d'un carme, d'un jeune carme qui comprenait le bon sens. Jean de la Croix a dévissé sa serrure, il a confectionné une corde adaptée à un mauvais crochet de sa lampe, et puis il est descendu par une fenêtre qui domine presque à pic le Tage, le fleuve. Et puis le cordage était trop court et Jean de la Croix est tombé sur un coin de rempart. Mais heureusement, il s'est pas trop fait mal. Et il a vu un mur, il l'a franchi, il a frappé chez des carmélites en suppliant qu'on le cache, et heureusement, elles l'ont hébergé. On raconte qu'il était consumé, défiguré, qu'il était une image de la mort. Et bientôt, bien là, les carmes chaussés, qu'on appelle aussi les mitigés, ceux qui essaient de d'éviter des excès, ben ils ont été un peu comme des chiens, ils ont couru ça et là pour essayer de le rattraper. Mais Jean de la Croix, à la grille des religieuses, a parlé d'eux, de quelle façon? Comme s'ils étaient d'insignes bienfaiteurs. Ça me rappelle un texte de Jean de la Croix que je lisais quand j'étais jeune. Veillez à ne pas vous peiner trop vite des événements fâcheux du siècle. Vous ignorez le bien qu'il cause. Et que veulent les jugements de Dieu pour l'éternelle joie des élus? Ne vous réjouissez pas des succès temporels. Vous n'êtes pas assez sûr qu'il vous donne la vie éternelle. Dans la tribulation, courez à Dieu avec confiance. Vous obtiendrez la force, la lumière et la science. Dans vos joies et satisfactions, courez à Dieu avec crainte et sincérité. Vous éviterez le piège et vous vous dégagerez du faux. C'est dans un petit livre que je traînais avec moi une douzaine d'années. Ça, j'avais acheté ça à Barcelone en 1950. Et si vous trouvez ça, mettez la main dessus. C'est tout petit, petit. C'est de Don Chevalier Moine de Solesmes. Les mots d'ordre de Saint Jean de la Croix chez Déclic de Brouwer. J'espère que ça a été réédité, mais c'était publié en 1947, en 1933 pour la première fois. Je l'avais relié moi-même et ça m'a toujours accompagné. C'est toujours comme un livre de chevet pour moi. J'ai toujours ça à côté de mon lit. On y puise des réflexions profondes, très belles. Il a obtenu finalement le poste de supérieur dans un monastère, le Calvaire. Et puis les carmélites de Béas ont admiré avec compassion ce martyr tout maigre et noirci, comme elles écrivent, qui venait les confesser. Il s'est refait dans le calme, une bonne santé, dans le repos aussi, puis a approfondi sa doctrine. Il a commencé un peu à la rédiger, il a écrit la montée du Carmel, la nuit obscure, et parfois il menait ses religieux vers un ruisseau ou bien un petit rocher agréable, et après les avoir récréés ou à l'air frais, là, comme ça, puis entretenus des choses de Dieu, ben il les dispersait pour qu'ils puissent méditer seul à seul. Mais en 1579, Jean a fondé le collège Carme à Baeza, à proximité. Il était extrêmement zélé au service des pénitents, des affligés, et surtout des scrupuleux qui venaient se décharger sur lui. Il n'aimait pas les scrupuleux. Il voulait les guérir, hein, les rendre libres. Et en 1582, bien les Carmes du Carmel des Martyrs à Grenade l'ont élu prieur. Alors, de ses mains, il a travaillé à construire un aqueduc et un cloître, un beau cloître mystique ombragé. Il a permis de sortir au jardin pour faire oraison sous les arbres. En somme, la nature, disait-il, doit nous porter au Créateur. Elle est un peu partout dans l'Évangile. Alors, c'est à Grenade, qui est très belle, une très belle ville, Grenade, que Jean a mis au point son fameux Cantique spirituel et son autre livre, La vive flamme d'amour, qu'il a rédigé en 15 jours pour une fidèle. Il est très probable d'ailleurs qu'il a eu des rapports avec les musulmans, les morts, M-A-U-R-E-S ou M-O-R-E-S, là, les morts. Il est très probable donc qu'il a eu ces rapports, car le mysticisme musulman a des analogies avec le sien. Il était entouré d'honneur pendant un certain temps. Il passait deuxième définiteur en octobre 1585. C'est un titre important. Vicaire général d'Andalousie aussi. En 1588, il était prieur à Ségovie. Pour dire qu'en 85, au chapitre général de Lisbonne, on parlait beaucoup d'une stigmatisée admirable et Jean a dit tout net sa défiance. Il craignait ces choses-là, lui. On trouve plus tard qu'il avait raison, d'ailleurs. À Ségovie, il a fait déplacer, afin qu'elle fût mieux en vue, une peinture sur cuir représentant le Christ portant sa croix. Et un jour, dans l'oraison, Jésus lui a demandé quelle récompense il voulait pour ce service. Et Jean a répondu, « Seigneur, tout ce que je vous demande, ce sont des souffrances à pâtir pour vous, que je sois sous-estimé en somme et compté pour peu. » On peut dire qu'il souffrait de masochisme. C'est pas ça, c'est une compassion au Christ, par amour du Christ. Ça peut être du masochisme chez certaines personnes, mais pas chez lui. D'ailleurs, il a été pris au mot, et le chapitre général de Madrid, en 1591, ne lui a confié aucune charge. Alors, il a dit, on me jettera dans un coin. Il a été, en effet, limogé. Et puis, il a été calomnié. On raconte que, vers ce temps, il avait éteint un incendie par sa prière. On dit même qu'un levreau, une petite bête apeurée, vint se blottir contre lui. Il avait aussi apaisé, dit-on, un orage en traçant 4 signes de croix. Je vous avais parlé l'autre jour d'une sœur blanche qui faisait un peu la même chose ici au Québec. Il a séparé aussi des gens qui se battaient en duel et qui étaient acharnés l'un contre l'autre en se jetant entre eux. Et puis, il a fait si bien que finalement, ils se sont mis à genoux devant lui et lui ont embrassé les pieds. Ils ont compris dans son regard et dans sa présence la sainteté de Dieu. Et comme on lui avait donné le choix entre deux couvents, Ésa qu'il aimait et Ubeda, et bien, il a choisi Ubeda parce que celui-là, il savait qu'il y avait du monde qui lui était hostile, il voulait les convertir, ces moines-là. Alors il s'y est rendu à la fin septembre 1591. Mais son corps était usé, et dans les 9 mois, au sein de la douleur, il a... Et puis, à cause du martyr quotidien, de l'observance, et puis le fait d'être supérieur aussi, son corps tombait en ruine, mais il s'est battu avant de céder. Il a eu une périostite à la jambe, donc des abcès, 5 abcès. Et le médecin a été obligé d'ouvrir sa jambe et de dénuder les nerfs et les os du haut du mollet jusqu'au talon. Imaginez la douleur, ces opérations épouvantables à ce temps-là, au 16e siècle. Et qu'est-ce qu'il disait? Lui, il disait, « Jésus, c'est cela que vous avez fait. » Alors, on veut lui parler, puis il dit, « Excusez-moi, je ne puis répondre. Je suis dévoré de douleur. » Imaginez la souffrance. Alors, il a fallu inciser 2 abcès au rein. Puis il disait, « Ça ne fait rien si ça convient ainsi. » Un abcès gros comme le poing lui pousse à l'épaule, et comme il aime beaucoup la musique, on fait venir des guitaristes pour le soulager. C'est un Espagnol, un Castillan. Si Dieu m'a fait les grandes douleurs que je souffre, pourquoi vouloir alors les adoucir et diminuer ça avec de la musique? Pour l'amour de notre Seigneur, remerciez ces messieurs musiciens de la charité qu'ils ont voulu me faire. Oh, je la tiens pour reçue, leur charité, récompensez-les, mais congédiez-les. Je veux tout simplement pâtir ces beaux cadeaux bienfaisants que Dieu m'envoie sans nul soulagement, pour mieux mériter grâce à eux. Mais oui, la conception de l'époque, mériter par la souffrance, mais n'oublions pas qu'il y avait chez lui un tel amour, que c'est toujours l'amour qui prime sur la souffrance, je l'espère, dans le cœur de ce saint. Et ces derniers jours sont simples et calmes, ces dernières heures sont pleines d'amour. On dit que c'était des heures aimantes et priantes. Et avant minuit du vendredi 13 décembre 1591, et alors comme on récitait la recommandation de l'âme, Jean l'interrompt. Il demande quoi? Le cantique des cantiques. C'est dans la Bible, ce beau texte un peu sensuel et si beau et si grand. Et Jean l'interrompt donc pour entendre le cantique des cantiques. Et le prieur ouvre la Bible, il lit. Saint Jean de la Croix redit quelques versets. Il s'exclame, quelle perle précieuse. C'est un poète. C'est un poète qui savoure le cantique des cantiques, cette grande poésie mystique de la Bible. Et quand minuit sonne, on arrive au 14 décembre, il souhaite qu'on sonne les matines. Et alors, vous savez qu'on célèbre les matines dans des monastères à minuit. J'ai vécu ça à la Chartreuse, à la Grande Chartreuse. Et alors, un crucifix en main, il prononce « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon âme ». Ce sont les paroles mêmes de Jésus que l'on retrouve dans Saint-Luc, au chapitre 23, verset 46. Si on pouvait tous mourir comme ça, entre tes mains, Seigneur, je remets mon âme. Puis il regarde les religieux autour de lui. Il embrasse son crucifix. Et il expire. Il avait écrit dans La Nuit Obscure, au livre 2, chapitre 20, Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ainsi, par cette théologie mystique et cet amour secret, l'âme s'en va, sortant de toute chose et d'elle-même, et monte à Dieu. Car l'amour est pareil au feu dont la flamme monte toujours. Et il avait dit aussi, au soir de cette vie, on t'examinera sur l'amour. c'est pas sur les sacrifices qu'on a faits, les excès qu'on a commis, les choses extraordinaires qu'on a faites, pas du tout. Au soir de la vie, au soir de notre vie, on t'examinera sur l'amour, ce sont les paroles de Saint Jean de la Croix. Et plus tard, en grand mystère, son corps a été porté à Ségovie, net, propre et comme parfumé, par les soins d'une disciple fidèle. Et c'est là qu'il repose, en la chapelle des Carmes, à Ségovie. Le pape Clément X a béatifié Jean de la Croix en 1675. Benoît XIII l'a canonisé en 1726. Pie XI l'a déclaré docteur de l'Église en 1926. En 1732, sa fête a été transférée au 24 novembre, chose étrange. Aujourd'hui, il est bien fêté. Depuis quelques années à peine, le 14 décembre, il était encore fêté le 24 novembre et avant le concile. On dit que cet homme était petit, qu'il n'était pas beau, qu'il avait des yeux noirs et un front large et haut. Il a connu les grands états extatiques. Il aimait que pour se gouverner, il aimait dire que pour se gouverner, il faut se servir de la raison naturelle. Très important. Se servir de sa raison, la raison naturelle. Il fallait se servir aussi de la loi de l'Évangile et de la doctrine de l'Évangile. Donc, il faut savoir utiliser sa raison. Hein. Oublions jamais ça. Ce grand, grand, grand mystique ne tombait pas dans les excès. Il se servait de sa raison. Il avait une louable réserve à l'endroit du merveilleux. Hein? Le merveilleux ne l'enthousiasmait pas. C'est pas le type qui aurait couru d'église en église pour voir des miracles et des choses sensationnelles. Hein? Un jour, on admirait qu'il avait restauré les os cassés d'une jambe de quelqu'un. Il disait, vous croyez des connaisseurs en fait de miracles? Avait-il dit ironiquement son entourage enthousiaste. Et en mettant son doigt sur sa bouche, il avait conseillé le silence. On a fait à Saint Jean de la Croix une réputation d'une certaine férocité. On voit ça dans Huysmans, le romancier catholique, là, qui a publié En route. Et dans les pages 109, 111, 371, il dit « Lisse des tortures, ardent et sombre, en parlant de Jean de la Croix, est rigoureux, éclair, terrible et sanglant. » Voyons donc. Tout ça, c'est s'arrêter à l'apparence de la doctrine. Et la doctrine de Jean de la Croix, elle est simple et ancienne, comme celle des moines. Les Carmes, en effet, aujourd'hui, se flattent d'unir la solitude des vieux ermites du Carmel, puis l'apostolat des moines mendiants, comme les franciscains, dont ils font partie, depuis le XIIIe siècle, font partie des moines mendiants. Et comme Saint Benoît, fondateur des bénédictins, chez qui l'on entend toute la tradition monastique, on le voit dans la règle, au chapitre 4 et chapitre 58, se renoncer pour suivre le Christ. Il dit d'ailleurs que le novice doit chercher vraiment Dieu. Et c'est tout, suivre le Christ, chercher Dieu, c'est tout. Saint Jean veut que l'on cherche Dieu avec décision. C'est là la clé, retenez bien ça. Chercher Dieu en se décidant vraiment, et pour cela, il faut garder toute sa force pour Dieu. On trouve ça dans la montée du Carmel. Il veut obtenir l'union à Dieu dans la pure lumière, dans la joie. Oh, comme il insiste là-dessus sur la joie. Hein. Il considère la cèse, qui doit être profondément intérieure, comme le dispositif nécessaire à cette union délicieuse. Y a-t-il plus grand bonheur que de s'unir à Dieu? Y a-t-il plus grand bonheur que d'être assis dans une église devant ses sacrements et de se laisser prendre par cette présence? Qu'est-ce que sont nos misérables, d'ailleurs, les petites saveurs spirituelles auprès de cette saveur profonde de l'esprit d'amour qui doit régner dans notre cœur? C'est un esprit intime, délicat, qui contient en lui-même toutes les saveurs à un degré suréminent. Il le dit dans La Nuit Obscure. L'union avec Dieu, c'est une union de volonté avec lui, dit-il. Il faut que l'âme ôte tout ce qui n'est pas conforme à la volonté divine. Que de choses on fait contre la volonté de Dieu dans une journée. Tout ce petit détail, il ne s'agit pas d'en faire de la contention ou du scrupule. Il faut que ce soit fait dans une grande liberté, comme une source d'eau qui coule dans le sourire, sans embêter les autres, et sans s'embêter soi-même. L'âme pourra être ainsi transformée en Dieu par amour. C'est là la clé. Transformée en Dieu par amour, il ne s'agit pas de se priver des choses. Ce n'est pas d'un dépouillement excessif. Il faut que ce soit le goût qui soit dans la nudité. Le goût simple, ne pas s'attacher aux choses. Ça laisse l'âme libre et vide. Et les pénitences extérieures, les exercices faits par volonté propre sont vains. Il le dit, puis on le voit aussi dans la règle de Saint-Benoît au chapitre 49, vers la fin, là. Il dit que les pénitences excessives et tous les excès, c'est une pénitence de bête. Il ne va pas de main morte, on voit ça dans La Nuit Obscure au premier livre. Mieux vaut renoncer à ses appétits, simplement. Par cette méthode, qui est radicale quand même, on profite plus en un mois, dit-il, qu'en des années, par tout autre exercice. On trouve ça dans La Montée du Carmel. Alors, ce renoncement doit être intérieur et total. Il dit bien dans La Montée du Carmel, dans le premier livre, au chapitre 5, « Qui veut aimer autre chose concurremment avec Dieu, sans nul doute ne fait pas grand cas de Dieu, puisqu'il met en balance avec Dieu ce qui est totalement éloigné de lui. » Comprenons bien ce qu'il veut dire. Il ne s'agit pas de l'amour de son mari ou de sa femme. Il ne s'agit pas de l'amour qu'on porte à ses enfants. Il ne s'agit pas de la joie qu'on ressent comme la joie que j'ai ressentie avant-hier quand mon petit-fils m'a appelé pour me dire qu'il voulait passer une semaine avec moi entre Noël et le jour de l'an. Ce sont des joies magnifiques. Non, ce sont les attachements vides. Il ne faut pas que l'on soit attaché pour soi-même, il faut être prêt à se détacher. On pleure quand quelqu'un meurt, quand l'on aime. Mais il faut être capable de le pleurer dans des larmes de détachement aussi. Peu importe, en somme, que l'oiseau ait à la patte, dit-il, un fil mince ou épais, il ne pourra voler qu'après l'avoir rompu. Un oiseau qui est attaché par un tout petit fil ne peut pas voler. Seul l'amour de Dieu rend possible ce renoncement que seul Dieu peut exiger. Et dans La Montée du Carmel. Mais encore faut-il le comprendre, faites bien attention. Il dit aussi qu'il est normal que les progrès soient lents et insensibles. Le chemin par lequel l'âme se dirige vers Dieu est comme un chemin qui serait sur la mer. Les empreintes s'effacent à peine formées, les pas et les traces de Dieu dans les âmes qu'il attire à soi en les faisant grandir dans la sagesse ont cette propriété de rester ignorées. Dieu, dit-il, est si transcendant que tout le créé sensible est une trahison plutôt qu'une traduction de Dieu. Ça, c'est sévère. Mais ça, c'est quand l'âme s'attache outre mesure. Il peut être utile aux débutants pour s'élever au Créateur. Mais qui veut gravir un escalier ne doit pas se fixer sur les marches. Les nuits décrites par Saint Jean de la Croix sont les purifications intérieures que l'âme doit subir pour monter. Il faut qu'elle renonce à tout appui qu'elle pourrait trouver en elle-même pour chercher Dieu par le seul moyen propre et proportionné qui est quoi? La foi pure, la foi vive, cette lumière obscure qui permet de toujours avancer dans une sérénité et une confiance. Cette connaissance d'amour, dit-il, aide à progresser dans la négation de tout, la nudité spirituelle, la pauvreté. L'action de la grâce obscurcit l'âme, comme le soleil aveugle, hibou. Ôte les perceptions naturelles saisies précédemment dans une lumière naturelle. Et là, la grâce fait sentir à l'âme sa misère. Combien la grâce merveilleuse qui nous fait sentir notre misère, qui nous fait comprendre qu'au fond, comme moi dans mon cas ici à Radio Ville-Marie, je ne suis qu'un robinet, je le sais. Dieu nous l'enseigne partout. Nous ne sommes que des instruments dans sa main. Mais encore, il nous reste une portion de volonté que nous devons utiliser en conformant notre volonté à la sienne. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite. Et sa volonté, c'est quoi? C'est que nous l'aimions. Que nous soyons tout donnés à lui pour pouvoir nous mieux donner aux autres. Et c'est tout. Pour qu'il puisse passer à travers nous pour atteindre les autres. L'humilité, dit Jean de la Croix, s'acquiert ainsi avec la sobriété spirituelle. L'âme parviendra au travers d'une nuit sèche et froide à un nouveau printemps. Oui, c'est un nouveau printemps. Il lui dit des choses tellement belles. Je vous lis ce petit texte. À l'ombre d'une obscure nuit, d'angoisseux amour embrasé, ô l'heureux sort qui me conduit, je sortis sans être avisé, ou sans être vu, si vous voulez, le calme tenant à propos ma maison en un doux repos. Ces poèmes de Jean de la Croix, il faut les lire, hein? Et les lire avec les commentaires et les méditer. C'est tellement beau. Si vous voulez être parfait, vendez votre volonté. Donnez-la à ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Venez au Christ par la douceur et l'humilité. Et suivez-le jusqu'au calvaire et au sépulcre, vous ressusciterez. Nous avons la copie d'un schéma dessiné par Saint Jean de la Croix, vous savez, où il monte la montagne. Il n'y a rien, rien, rien. Et c'est là, dans le rien, que l'on atteint Dieu. Heureuse Espagne qui nous a fourni ce grand saint.